Et on vous retrouve Marion Galland pour le journal. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Les conditions météorologiques qui restent particulièrement préoccupantes sur l'île, la chaleur, le vent et une végétation desséchée placent de nombreux massifs forestiers sous très haute surveillance.
Oui, et dans ce contexte, la prévention est plus que jamais au cœur de la lutte contre les incendies. Chaque jour, 14 patrouilles de l'Office national des forêts sillonnent les secteurs les plus sensibles. Leur mission ne se limite pas à détecter un éventuel départ de feu. Elles vont aussi à la rencontre des promeneurs et des randonneurs pour rappeler les consignes de sécurité. Elle contrôle les accès aux pistes forestières, vérifie les équipements de défense contre les incendies et évalue la fréquentation des sites. Patrice Roubaud a suivi deux patrouilleurs de l'ONF dans leur mission quotidienne au cœur du massif de Côte-Cavary, où la forêt de pins et d'eucalyptus descend jusqu'à la mer et où la sécheresse a transformé la végétation en véritable poudrière.
Codis 2A de patrouille ONF à Côte.
Il est midi. Prise de service dans la forêt de Côte-Cavary. Pour deux techniciens de l'ONF, à chaque rencontre avec un promeneur ou un randonneur, Christophe Léonardi, responsable de l'unité territoriale Ajaccio-Ornano, rappelle les consignes de sécurité.
En fait, on voulait vous informer sur le risque incendie.
Beaucoup, oui.
Après, je suppose qu'il n'y a pas de fumeur parmi vous, parce que l'usage de la cigarette est interdit.
Tout le monde est sensible à son environnement et qu'il y a des gens qui sont là pour agir. Tout souffre, en fait, et on sent que ça peut partir de rien du tout, en fait. Donc il faut vraiment faire attention.
Le maquis hautement inflammable, c'est pour ça qu'on est là aussi pour faire de la prévention. Aujourd'hui, on est sur une poudrière.
La prévention ne constitue qu'une partie de leur mission. Les agents de l'ONF effectuent également un comptage systématique des véhicules stationnés aux abords des massifs forestiers, mais assurent aussi de nombreuses autres missions. Hervé Drouin, technicien territorial à l'ONF.
Ah, déjà que les pistes soient fermées à la circulation, notamment des automobilistes, quads, etc. Et la partie police. Et puis après, on surveille aussi l'état du matériel. Il est évident que lorsqu'il y a des citernes à eau pour les pompiers, il faut regarder que tout fonctionne.
Ces patrouilles sont programmées jusqu'à la mi-septembre, mais si le stress hydrique de la végétation reste aussi élevé, ce dispositif de surveillance pourrait être prolongé.
Et pour aller plus loin sur le sujet, Frédéric Lapine, chef de service à l'ONF, sera l'invité de la rédaction à 7h45. Elle répondra aux questions de Patrice Roubaud.
Le syndicat Via Campagnola monte au créneau.
Après l'avis défavorable de l'ARS sur la création du centre de tri de Mezzane, en raison du risque de pollution des cours d'eau et par conséquent de la production agricole, Via Campagnola demande au préfet de suspendre le projet. On écoute Laetitia Simeone, porte-parole du syndicat.
Il n'y en a pas encore eu vraiment, donc pour l'instant on apprend que le préfet passe outre les avis, notamment de l'ARS, mais enfin j'ai envie de vous dire de simple bon sens. Ces centres de surtri créent des pollutions, notamment en cas d'incendie. Peu importe les avis, peu importe les consultations, qu'elles soient agricoles ou autres, au final, l'État français, la préfecture, fait ce qu'elle veut. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que l'État français, via sa préfecture, arrête de se foutre du monde et de faire des réunions, de faire croire qu'ils écoutent tout le monde, qui sont effectivement pleinement à l'écoute de la Corse et des problématiques, notamment agricoles, et puis après passer outre pour des raisons qui leur appartiennent. Je ne sais pas, ils pourraient peut-être nous expliquer pourquoi ils sont pour ce projet. Je serais curieuse d'entendre les raisons du préfet.
Laetitia Simeone, porte-parole de Via Campagnola, qui répondait à Julia Beaufis. Elle entre en vigueur aujourd'hui, la nouvelle loi contre le démarchage téléphonique adoptée l'an dernier au Parlement. Concrètement, elle signe la fin du précédent dispositif Bloctel, jugé peu efficace. Désormais, pour être démarché au téléphone, il faudra avoir donné son accord au préalable, un changement salué par les associations et par les consommateurs eux-mêmes. Alors que ces appels commerciaux se sont multipliés ces dernières années, Raphaël Ebenstein.
Le ras-le-bol est général. 97% des Français se disent excédés par ces appel pour proposer un nouveau contrat chez un fournisseur d'énergie ou une rénovation de logement, selon un sondage de l'association Que Choisir Ensemble. Pour Célia, 28 ans, c'est même en quelque sorte la double peine.
J'ai une ligne perso et une ligne professionnelle, et sur les deux c'est vraiment tout le temps, c'est très pénible.
Désormais, les entreprises devront recueillir au préalable l'accord écrit des clients avant de pouvoir les démarcher, accord valable un an maximum, sous peine d'être exposé à une amende de 375 000 euros. Un changement salué par Benjamin Rocher. Il est chargé des relations institutionnelles à Que Choisir Ensemble.
C'est la fin d'un long combat. On considère à Que Choisir Ensemble que cette présomption juridique qui existait auparavant, donc c'est-à-dire le fait qu'un consommateur a été présumé de base consentant à recevoir des appels commerciaux, elle n'avait pas lieu d'être puisqu'elle ne correspondait absolument pas à l'état de la société, à ce que souhaitent les consommateurs. Donc du coup, on en est très content. C'est une avancée pour la protection de la vie privée des consommateurs.
Si la loi a pour objectif de réduire drastiquement le nombre d'appels non désirés, elle ne pourra pas empêcher en revanche les appels frauduleux ou provenant de l'étranger.
Un reportage de Raphaël Ebenstein et Anouk Toutin.
C'est une grande première dans le football français. Le football vidéo support, une sorte de mini-VAR, était utilisé pour la première fois à l'occasion de la première journée de Ligue 3.
Et une nouveauté bienvenue pour les entraîneurs qui leur permet de contester une décision arbitrale grâce à la vidéo, à raison de 2 challenges par rencontre et par coach, pour demander un carton rouge, revenir sur un but marqué, une situation de pénalty et l'identité d'un joueur erroné. Voilà les 4 catégories qui entrent dans le champ d'action du FVS. Mais cette première a été contrastée pour la plupart des entraîneurs. Certains estiment que l'intervention de cette mini-VAR casse le jeu. L'analyse du référent arbitrage du Sporting Club de Bastia, Ludovic Genest, joint par Alexandre Antonini.
Alors effectivement, il y a une certaine lenteur, mais parce que là, pour le coup, on demande à un arbitre de se déplacer et de venir voir les images, ce qui n'est pas toujours le cas en Ligue 1. En Ligue 1, on a 2 arbitres supplémentaires qui sont dans un quart régie et qui peuvent voir les images en direct et qui peuvent quasiment faire leur analyse avant même que l'arbitre se déplace. Là, pour le coup, à partir du moment où le coach fait une demande, l'arbitre est automatiquement obligé de se déplacer. Selon l'endroit du terrain où il se trouve, ça va être plus ou moins long. Et ensuite, je pense qu'il y a besoin de calibrer. En tout cas, les techniciens des images ne sont pas encore très au point. C'était une première pour tout le monde, donc je pense qu'on peut gagner un petit peu de temps sur ce point-là.
Et pour finir ce journal, on salue l'exploit d'un jeune Ajaxien, véritable petit prodige de la natation. À seulement 16 ans, Sauveur Christophine, licencié du GFSA Natation, a remporté hier la médaille d'argent sur le 4x200m nage libre au championnat d'Europe. L'équipe de France de Léon Marchand signe au passage un nouveau record national. Sauveur Christophine devient, lui, le plus jeune médaillé de l'histoire dans cette discipline en France. Nous reviendrons sur cet exploit dans notre journal de 8h.